Haute fréquence.
La religion dans tous ses états.
Bonsoir Samuel Socquet.
Bonsoir Gabriel.
On va au théâtre avec vous aujourd'hui.
Oui, au théâtre des Terreaux à Lausanne. Les élèves du gymnase de la Cité assistent à une représentation de la pièce « Cueillir une fleur, c'est déplacer une étoile ».
Et c'était quoi le thème de cette pièce ?
La vie de Théodore Monod, le naturaliste et explorateur protestant. Son personnage était joué par deux comédiens de la compagnie de la Marelle, Pierre-Philippe Deveau et Aurélien Deck. Et cette représentation était proposée par l'aumônerie du gymnase de la Cité avec une table ronde à l'issue de la pièce.
Et vous avez donc aussi rencontrer les aumôniers.
Oui, on les retrouvera d'ici une dizaine de minutes, car je les ai interrogés sur leurs activités. À l'heure où les églises traditionnelles se vident, je voulais comprendre quel était leur rôle d'aumônier auprès des gymnasiens aujourd'hui.
Votre reportage commence d'ailleurs avec les élèves.
Oui, on a un vendredi matin, je retrouve devant la cathédrale les quelques 80 élèves du gymnase de la Cité qui attendent de partir pour le théâtre. Et je leur demande s'ils ont déjà une petite idée de la pièce qu'ils vont voir.
Non.
Non, pas du tout, honnêtement, vraiment pas. Enfin, on sait que c'est une pièce de théâtre, mais pas plus, quoi. Okay.
C'est une proposition qui a été faite par l'aumônerie du gymnase. L'aumônier, c'est quelqu'un que vous connaissez. L'aumônerie, c'est un lieu auquel vous rendez de temps en temps.
Bah, on l'a déjà vu venir une fois, elle a déjà fait quelques petites interventions. Enfin, on sait qu'il est là, mais on n'y va jamais.
Non plus, je ne l'ai jamais vu.
Non, pas encore, mais on m'a invité à aller le rencontrer. Ok. Bon, j'avais un projet même, c'était de devenir pasteur. Et, oh, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup.
J'ai fait une semaine découverte avec lui à Paris l'année passée.
J'ai plus un lien avec l'infirmière qu'avec l'aumônier, mais je pense que dans des situations où il y a un conflit peut-être, je me permettrais de le contacter pour essayer de régler le conflit, mais à part ça, je vois pas pourquoi je le contacterais.
Ah oui, l'aumônerie. Ils sont passés avec le groupe ressources dans notre classe. Et puis honnêtement, ils ont l'air ultra sympas. Je crois que c'est un peu religieux quand même. Je crois là, bientôt, ils vont faire une soupe populaire où on peut participer, donner de l'argent. C'est pour nous aider, quoi. Mais je pense que je connais des gens à qui l'aumônerie, ça pourrait vraiment les aider.
Quand vous avez besoin particulier qui n'est pas lié à l'école, aux profs, à l'organisation scolaire, vous allez vers qui au gymnase ?
Personnellement, j'irai vers mes parents ou alors vers des profs, parce que c'est des adultes.
Là, on est arrivé au Terreau, devant le lieu où vous allez voir une pièce de théâtre sur Théodore Monod. C'est quelqu'un que vous connaissez, ce personnage ?
Non, pas du tout.
Et c'est une activité, le théâtre, que vous pratiquez régulièrement ou pas du tout ?
Non, même pas. J'allais regarder des théâtres avec l'école. Okay. Mais sinon, comme ça, dans mon plein gré, je suis pas trop... Mais j'aime bien. On m'a souvent dit que je devrais y faire. Mais j'ai jamais été plus loin.
En fait, notre prof, elle nous propose de faire des sorties. C'est à choix. En tout cas, c'est pour notre classe. Et moi, je viens tout le temps. Nous, par exemple, on est une classe d'artistes. Donc, il faut aller dans les musées, il faut aller aux concerts, il faut aller au théâtre, il faut aller au cinéma.
Si je vais voir quelque chose, une représentation artistique ou quoi, c'est pour me faire réfléchir. Donc je sais pas de quoi ça va parler, mais j'espère que ça va un peu me remettre en question ou quelque chose comme ça, voilà.
Alors restez groupés et allez plutôt vers la scène.
Bonjour. Nous allons vous parler de Théodore Monod.
Théodore Monod était jeune.
Oui, c'est vrai, il a été jeune, mais il a aussi été...
D'un certain âge.
Oui, il a été vieux à 98 ans.
Non, il est mort à 98 ans.
Attention, tu spoiles là.
Ah oui, mince, c'est vrai. Eh bien, vous connaissez déjà la fin du spectacle. Donc, qui était Théodore Monod ?
Né en 1902 à Rouen, en France. À 22 ans, il part en Mauritanie en mission où il va collecter des poissons, des crustacés, des méduses, des céphalopodes.
Depuis l'océan, le désert lui fait de l'œil.
La tentation est trop forte.
Sa première traversée du désert durera un mois.
Il fera 180 traversées de désert jusqu'à ses 96 ans.
180 fois, toutes en Afrique.
Oui, car Monod disait un seul continent par existence.
Il savait se raisonner tout de même.
Oui, parce que c'était un grand penseur, un théologien.
C'est tout ça qu'il a fait.
Entre autres,
Théodore Monod a traversé le XXe siècle.
À pied.
À chameau.
Lentement.
Très lentement.
Très, très lentement.
Au cours de notre vie, nous jouons différents rôles. Et les actes de la pièce sont les sept âges. Oh !
un tapis de fleurs dans le désert. Il a dû faire une averse avant-hier. Les graines, dans leur starting block, ont poussé comme si leur vie en dépendait. Et maintenant, il va falloir attendre la prochaine pluie, peut-être dans quelques années, mais les graines seront là. Et tout pourra encore repartir. Le désert est un livre ouvert dans lequel on peut lire l'histoire de la Terre. Et chaque feuille représente quelques millions d'années. On est prêts ?
Yalla ! Le vent se lève, on se met à l'abri. C'est fini.
Ah, parfait. Remettons-nous en route.
Non. Les chameaux mangent acacia, on fait bivouac.
Chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes de retour sur les antennes de Radio Dakar à l'IFAN, l'Institut français d'Afrique noire. Et plus précisément, dans le bureau de son directeur, j'ai nommé le professeur Théodore Monod qui ne va pas tarder à nous rejoindre. Auditrice, auditeur, mais comment vous décrire ce qui m'entoure, ces murs jonchés de bibliothèques et ces ouvrages par milliers. Ici et là sont dispersés des bocaux dans lesquels logent des animaux tous plus étranges les uns que les autres. Professeur, qu'aimeriez-vous partager avec les gens qui nous écoutent ?
Je ne sais pas. Posez-moi des questions.
Bien sûr, certainement. Alors, quelles ont été vos découvertes ?
Moi, peu de choses. Mais mes collaborateurs ont beaucoup apporté à l'Institut. D'ailleurs, n'importe qui, y compris les enfants, peuvent devenir des découvreurs, des scientifiques.
Vous avez tout de même vécu des expériences incroyables. Je pense notamment à votre rencontre avec le professeur Picard.
Ah, invité par le grand professeur Auguste Picard, mondialement reconnu, ami d'Albert Einstein. Bon, il aurait été indécent pour ma part de refuser cette invitation.
Et qui plus est, dans son bathyscaphe.
Un drôle d'engin qu'il a fabriqué lui-même pour descendre dans les profondeurs sous-marines. La nature n'existe pas, puisque nous sommes la nature.
Cueillir une fleur, c'est déplacer une étoile.
Ah, Théodore, excuse-moi de t'avoir fait attendre, mais ce cher monsieur Benner avait besoin de s'épancher.
Très cher père, j'admire votre faculté à écouter les états d'âme des gens. Vous êtes toujours prêt à donner pour les autres.
Mieux vaut servir Jésus-Christ sans le nommer que de nommer Jésus-Christ
sans le servir. Ah bah ça, c'est votre mantra. Je m'aperçois que je n'ai pas de vie intérieure, que je ne sais pas prier, que je ne sais pas s'il y a un Dieu. Le problème me torture.
Qu'en penses-tu de terminer tes études de sciences naturelles pour commencer enfin celles de théologie ? Tu serais moins torturé. Hier, j'ai vu le doyen de la faculté. Il m'a dit qu'il trouvait ta démarche très intéressante de faire un pas de côté avant de devenir un grand théologien.
Justement, je crois que je ne vais pas m'arrêter d'apprendre des petites bêtes aquatiques.
Je le redoutais, mais je le savais. 5 générations de pasteurs, il fallait bien que ça cesse un jour.
Mouloud, de nouveau malade et on n'avance pas, on se traîne. 2 chameaux boitent.
La grande tentation de l'abandon. Il a trouvé la faim.
Il a trouvé la soif.
Je pourrais avoir le don pour transmettre les messages reçus de Dieu. Je pourrais posséder toute la connaissance et comprendre tous les secrets. Je pourrais avoir une foi suffisamment grande pour déplacer les montagnes. Mais si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien.
Je peux demander à Chou, on s'est vu avant le spectacle. C'est quoi votre réaction suite à cette représentation ?
Moi, j'ai surtout aimé le décor, comment il était fait. C'était un énorme drap blanc, je dirais. Je pense qu'il projetait une image de quelqu'un qui dessinait avec du sable. J'ai trouvé ça très beau aussi, jouer avec les lumières. Et ouais, c'était très intéressant.
Ce Théodore Monod que vous avez donc découvert dans cette représentation, vous inspire quoi ?
En tout cas, par rapport au côté religieux, c'est quelque chose que je me suis déjà posé la question. Le moment où il parle avec du coup son père, je pense que ça me questionnait encore un moment.
J'ai bien aimé le personnage. J'ai trouvé qu'il restait fidèle à ses convictions. On a vu qu'il prenait le temps de bien profiter des moments, de vivre tout ce qu'il faisait. C'est vrai que maintenant, on est un peu emprisonné, on ne peut pas vraiment faire ce qu'on veut. Peut-être à l'époque, c'était un peu plus facile, on pouvait un peu plus poursuivre ses rêves. Mais c'est quand même un beau message, je trouve, qu'on peut transmettre maintenant et d'essayer de montrer aussi que c'est possible, même aujourd'hui, peut-être, d'aller poursuivre ses buts et puis de prendre le temps de vivre le moment.
Voilà, rebonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être revenus et d'être restés pendant cette première partie de spectacle. Et on va enchaîner maintenant sur la deuxième partie avec un très beau panel de personnes sous la forme d'une table ronde. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, on a une autre dimension de l'écologie. C'est en fin de compte, comment est-ce que je me sens appartenir au vivant ?
Ce qui fait que c'est d'autant plus pertinent de parler de Théodore Monod via le théâtre, c'est qu'on est vraiment dans le vivant. On ne peut pas être plus dans le vivant que dans le théâtre. Parce qu'on muscle notre empathie à se retrouver. Là, c'est un événement, c'est une rencontre. Ce qui ne serait pas le cas si on était tout seul devant notre écran, même dans un cinéma, finalement.
Alors, moi, je n'ai jamais dormi dans le désert, mais je suis allé en Namibie, dans le désert du Namib, et je suis d'accord avec Théodore, c'est un endroit très apaisant pour se retrouver avec soi-même. Et
les autres, vous pourrez réagir aussi sur vos premières expériences au théâtre.
Alors en vrai c'était assez cool, mais il y a quelques trucs que j'ai pas compris. Par exemple, pourquoi les comédiens ils sont pieds nus ?
Moi ce genre de questions j'adore parce que effectivement les uns les autres on a vu des choses différentes. Au théâtre on rentre dans un rêve, on rentre dans quelque chose de différent. Juste ça, ça dit déjà quelque chose de fort.
Moi j'ai une question par rapport à la dernière partie quand vous avez parlé de si je parlais la langue des humains et tout ça, des anges, mais si je n'avais pas l'amour, je ne serais rien. Je crois que c'est tiré des psaumes, non ?
Pas si loin, mais tu as raison, c'est dans la Bible. C'est un texte qu'on trouve dans le Nouveau Testament, plus précisément dans le livre des Corinthiens.
Du coup, je ne vois pas forcément le lien, puisque lui, il a décidé justement de quitter ce côté religieux.
Il a décidé de ne pas faire des études de théologie, mais il n'a pas rejeté la religion. Parce que pour lui, c'est une question de culture avant tout. C'est pas celui-ci qui croit mieux que l'autre, non.
Explorer toutes les dimensions de votre être et de votre intériorité, ce sera un petit peu le mot de la fin de cette rencontre. Merci infiniment à Frédéric, à Roberto, à Aurélien et à Pierre-Philippe. Et à vous aussi, évidemment. On vous remet entre les mains de vos enseignantes et enseignants pour remonter aux études. Voilà, vous retournez bien au cours. Il n'y aura pas de mots d'excuses. Retour au gymnase.
Qu'est-ce que vous avez vécu dans ce monde de théâtre ?
C'était très intéressant parce qu'il y a eu des intervenants qui ont parlé de leur point de vue. Et moi, je n'ai pas compris la pièce comme eux l'ont comprise. Pour moi, c'était vraiment c'était un explorateur qui, au travers de ce qu'il explorait, s'explorait aussi lui-même. Selon les experts, ça parlait d'écologie, mais pour moi, pas tant que ça, voilà.
Moi, je n'ai pas particulièrement compris la pièce. Je trouvais ça très, très flou. Je ne voyais pas où ça allait, je ne comprenais pas d'où ça partait et d'où ça finissait. Le fait que les intervenants viennent nous donnent leur point de vue, ça permet de mettre un peu plus des mots, d'être un peu plus clair dans l'esprit.
Mais pour moi, il y avait quand même un message dont après, on n'a pas parlé, mais genre que c'était quand même quitter les attentes des autres, parce que lui, il a quand même des attentes de sa famille, par exemple, il décide de vivre sa vie comme il la veut, quoi. Même si c'était le millénaire passé, c'est quand même très actuel, quoi.
Ouais. Au final, à travers des problèmes que lui, personnellement, il a rencontrés, on vit à peu près la même chose différemment, avec d'autres moyens, mais c'est pareil presque au final.
Vous écoutez Haute Fréquence et on entendait à l'instant des gymnasiens de la Cité à Lausanne qui s'exprimaient sur la pièce « Théodore Monod, cueillir une fleur, c'est déplacer une étoile. Une pièce à laquelle vous avez assisté, Samuel Socquet.
Oui, cette représentation était organisée par l'aumônier du gymnase, Guy Labarac. Il est aussi le coordinateur du service de formation et d'accompagnement de l'ERV, l'église évangélique réformée vaudoise.
Et c'est lui qu'on entendait tout à l'heure inviter les élèves à retourner en cours après la table ronde, hein, c'est
oui,
juste.
Oui, tout à fait, c'est lui. Et je lui ai fait écouter le reportage ainsi qu'à sa collègue Maria Minarski. Elle est aumônière catholique, notamment au gymnase de Beaulieu. Et je leur ai demandé ce qu'ils pensaient des réactions des élèves.
Impressionnant de voir la maturité de ces jeunes. On a toujours envie de plaquer sur eux, qu'on doit les formater, qu'on doit les former, qu'on doit les rendre attentifs à. Et là, il y a une maturité qui est absolument exceptionnelle. Ils ont parfaitement reçu le message. Ils l'ont traité pour eux-mêmes. Ouais, magnifique.
Il y a quelque chose qui m'a frappé dans les réactions après la table ronde, c'est le décalage entre la perception que les adultes apportaient avec l'aspect écologique qui était mis en avant et puis leur perception à eux de la pièce qui faisait vraiment écho à une quête personnelle, une nécessité de se libérer des adultes justement, des attentes, etc. Ça vous a surpris ce décalage-là ?
Non, pas du tout. Il faut savoir qu'au gymnase, il y a beaucoup de jeunes qui sont en fait dans ces institutions du secondaire 2 en gymnase pour passer leur maturité parce que leurs parents ont dit qu'il fallait qu'ils passent leur maturité au cas où, même s'ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Et je pense qu'en fait, l'extrait de la pièce où effectivement Théodore Monod réagit un petit peu à son père et lui dit « Bah finalement, moi j'ai pas envie de suivre une carrière religieuse comme toi, j'ai envie finalement de me confronter à la nature, me confronter en tant que scientifique, quelque part », ils ont parfaitement compris que ce qui est important pour eux, c'est d'advenir ce qu'ils doivent devenir eux-mêmes. Et c'est ce que nous, on essaie, en tout cas, en tant qu'aumônier, de faire. C'est qu'on n'est pas là pour essayer de distiller un message, une morale, mais on est là vraiment pour essayer de susciter en eux leur propre spiritualité.
Maria Minarski, vous êtes aumônière catholique, notamment au gymnase de Beaulieu. C'est quoi votre réaction à chaud ?
Je trouve qu'il y a beaucoup de vérité dans les choses qu'ils disent, de l'émotionnel et le lien avec leur vie privée. Donc c'est toujours une découverte de voir comment nous amenons le spectacle et notre idée qu'il y a derrière et comment ça peut être vécu et perçu par les élèves.
Et puis en termes de réaction sur l'aumônerie, on entend certains étudiants qui disent « je ne sais pas du tout des gens que je rencontre ». Comment vous réagissez à ça ?
J'ai trouvé une réponse assez concrète de notre réalité qu'on découvre tous les jours parce qu'effectivement, on est là, si tout va bien, un jour par semaine, peut-être un jour et demi. Donc notre but, c'est vraiment de savoir qu'ils savent qui on est quand ils nous rencontrent et après, suite aux différentes actions qu'on fait, créer le lien, comme par exemple la journée du spectacle de la table ronde.
Et c'est quoi les raisons pour lesquelles les gymnasiens et gymnasiennes se tournent vers vous ?
En général, c'est des occasions de souffrance personnelle et ils n'ont pas envie d'avoir un lien psychologique avec un professionnel, mais ils ont besoin vraiment de quelque chose de plus humain qui n'a pas une spécialisation vraiment d'un suivi médical.
Vous sauriez dire, sur les 1000 et quelques élèves du gymnase de la Cité, vous touchez combien de personnes ?
Très peu. Très peu. Mais visiblement, enfin, on a entendu qu'ils avaient quand même ouï dire de l'aumônerie. Ils nous ont vus dans le cadre des présentations des services en première année. Certains ont participé à des voyages. Il y a quelques années en arrière, c'est vrai que la spiritualité susciter quelques interrogations, quelques questions, de la part des anciens aussi des élèves. Pourquoi est-ce qu'il y a au fond des aumôniers catholiques et des aumôniers protestants ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des aumôniers musulmans ? Ou voire même des aumôniers qui reflètent quelque part la libre pensée. Et puis de plus en plus, peut-être avec les problèmes de notre monde, la spiritualité revient. On a chassé en fait la spiritualité par la grande porte, mais elle revient par la cheminée, elle revient par les fenêtres, et parfois pas toujours sous une bonne forme. Ce qui fait qu'il y a vraiment une demande de la part des enseignants, de la part du groupe ressources, et de la part aussi des directions, d'avoir cette interface spirituelle. Je vais prendre des faits. Il y a 2-3 ans en arrière, on a eu en fait une demande de l'école de soins et de santé communautaire, et quelques temps après, de l'école de la transition, d'avoir un aumônier. Et aujourd'hui, on reçoit en fait des demandes de la part d'établissements qui n'ont pas d'aumônier d'avoir les aumôniers. Ce qu'il n'y avait pas il y a une dizaine d'années en arrière. De ce point de vue-là, il y a une chose qu'il faut vraiment mentionner aussi, c'est qu'on demande à nos aumôniers, qu'ils soient catholiques ou protestants, de n'avoir aucune visée prosélyte. C'est pas possible. Et si nous avons des candidatures d'aumôniers qui sont un peu prosélytes, elles ne sont pas retenues. Quand on aura compris un jour ça en Église, que s'il doit y avoir évangélisation, ben c'est soi-même. On n'est pas du tout, ou plus, parce que on sait très bien que les églises ont fait beaucoup de mal en voulant changer les autres, et ça on le sait encore très bien, et ça nous l'est dit, et on le reconnaît tout à fait, mais là on est vraiment dans une posture d'écoute, d'accompagnement pour l'autre.
Ça m'évoque une phrase que vous avez dite, Guy Labarin, que la spiritualité revient, et pas forcément sous la bonne forme. C'est quoi la mauvaise forme sous laquelle il revient ?
Alors, on a clairement des élèves qui se radicalisent, c'est clair et net. J'entends, il n'y a pas simplement en France où ces phénomènes existent. Donc, on a affaire à des élèves qui, parfois, ont des avis qui, au niveau de la religion, ne sont pas des avis qui sont extrêmement tolérants. Beaucoup d'élèves regardent YouTube, voient des vidéos. Le gourou, qu'il soit imam, qu'il soit pasteur ou qu'il soit n'importe quoi, ben, il est en fait derrière l'écran. On essaye en permanence de remettre en fait le jeune dans une communauté. Vous avez vécu ça, vous avez entendu ça. Ce serait bien que vous puissiez en fait en discuter avec un responsable religieux local. Et puis on a en fait des adresses de personnes qui sont reconnues par nos églises pour pouvoir écouter ces jeunes. Alors ils le font, ils le font pas. Ça c'est leur liberté. Mais on va pas aller vérifier s'ils le font ou ils le font pas.
Maria Minarski, c'est un phénomène de la radicalisation chez les jeunes que vous constatez aussi, que ce soit au gymnase ou dans les hautes écoles.
Alors oui, c'est une des événements qu'on remarque ces dernières années. Et puis il y a surtout beaucoup de peur de la part de l'institution que ça puisse arriver. Donc ils nous voient un peu comme les garants et ils demandent qu'on soit présent à accompagner et à vérifier. Comme le disait mon collègue, un des points clés, c'est que l'élève ne soit pas seul. Et c'est là que nous pouvons leur donner la possibilité de créer leur contact à l'extérieur. Et on peut revoir ces élèves pendant toute l'année et puis voir aussi leur parcours et leur attachement à une croyance ou l'autre.
Il y a de plus en plus d'élèves, moi, qui viennent me voir. Monsieur, vous faites le carême, là ? Ouais. Et donc, ils sont attachés à ce que la personne de référence en matière de religion fasse un certain nombre de pratiques de ce type-là. Et ils aiment quand on leur parle un petit peu de notre vie privée, notre vie spirituelle, notre vie religieuse, parce qu'ils savent qu'on est en fait quelque part des gens d'église. Et ça nous interpelle énormément. Et moi, ça m'interpelle beaucoup, parce qu'il y a quelques années, même moi-même, par rapport aux prescriptions, j'étais un peu... Oui.
Et ils vous ont ramené sur le chemin du carême, ces élèves ?
On peut dire que oui. Ouais. C'est eux qui m'ont changé. C'est pas moi qui les ai changés.
Maria Minarski, vous êtes estampillée entre guillemets aumônière catholique. Est-ce que vous avez l'impression que le fait d'être identifiée comme catholique pourrait vous couper de liens avec d'autres étudiants qui ne s'identifieraient pas comme catholiques ?
Alors, votre question est très intéressante parce que vous savez que je suis catholique, mais la plupart des élèves le savent pas. Ils ont aucune préférence religieuse et non plus aucune pratique. Donc, je dirais le religieux n'est pas la première porte d'entrée.
On est au service de la spiritualité de chacune et de chacun et pas une spiritualité proprement chrétienne.
Et la spécificité, vous diriez, du travail de l'aumônier dans un gymnase par rapport à une institution comme un hôpital, un EMS, c'est quoi ?
Alors, on est en fait, on a plusieurs casquettes. On a une casquette, on participe à toutes les activités de l'ordre de la prévention, avec le réseau santé, avec les psychologues, psychologues en orientation, l'infirmière, le travailleur social et les médiatrices et médiateurs, évidemment. Mais aussi, on propose un certain nombre d'activités aux enseignants. Alors, on passe par les enseignants pour avoir accès aux élèves. C'est le cas typiquement de la pièce, en fait, de Théodore Monod, où moi, j'ai, en fait, contacté des enseignants pour ça.
Vous, au gymnase de Beaulieu, c'est quoi le genre d'activité que vous proposez aux élèves ?
Il y a pas mal de projets au niveau solidarité qui marchent très bien dans mon école. Et puis l'école, pas seulement les élèves, mais tout l'établissement est preneur. Par exemple, proposer aux élèves de participer à différentes initiatives qui sont en dehors de l'école, mais toujours les accompagner. Et l'autre action, je dirais, particulière, c'est le fait qu'on a cette possibilité d'être à l'intérieur de l'école, mais en même temps de ne pas être des enseignants.
Vous ne mettez pas des notes ?
Oui, exactement. Alors, ça compte énormément. Ils ne se sentent pas jugés. Il y a cet aspect de confidentialité qui peuvent tout dire.
Ça, c'est quelque chose qu'ils pourraient trouver auprès de l'infirmière ou l'infirmier scolaire, de la psychologue ou du psychologue scolaire. Qu'est-ce qui, vous avez l'impression, les fait plutôt se tourner vers vous que vers ces professionnels de la santé ?
Il y a une bonne partie d'élèves qui nous sont transmises par nos collègues psychologues, infirmiers ou médiateurs. Donc quand la thématique devient beaucoup plus penchée vers le spirituel, alors effectivement c'est l'aumônier qui peut prendre ça en charge, parce que ça peut être vraiment une ressource qui peut être trouvée dans l'élève, par l'élève.
Il est vrai que le drame de Grand Montana nous a mis sur le devant de la scène. On a écouté des élèves qui étaient complètement déstructurés, complètement dévastés par ce qui s'est passé. Et là, la question de la spiritualité est revenue, alors vraiment par la grande porte, et ça nous a beaucoup impactés. Avec des prises en compte du fait que nous sommes mortels, même en Suisse, alors que notre société a toujours envie d'évacuer en quelque sorte notre finitude et notre mortalité. Et là, on a pu vraiment écouter en fait ces jeunes pour les souffrances qu'ils avaient.
Oui, alors c'était un début d'année très particulier, très émouvant, qui a touché toute la société. Effectivement, je suis aumônière à Beaulieu, mais pour cette occasion, j'ai été chargée d'être aumônière dans un autre établissement scolaire de notre canton, qui a été le plus touché au début d'année.
Chamblande, j'imagine.
Oui, exactement. J'étais au gymnase des Chamblandes pendant les premiers jours, et puis ensuite, c'est mon collègue qui a repris la suite. Et l'aumônier est un élément clé dans des situations où la mort entre dans la vie, parce qu'il y a cette capacité de traiter la thématique avec une douceur, comment dire, c'est comme si on tenait la mort entre les mains, en fait, je ne sais pas, et puis les collaborateurs peuvent sentir vraiment ce soutien dont ils ont besoin, et leur vie peut reprendre cours quotidiennement, et puis les élèves avaient vraiment besoin de pouvoir sortir et poser quelque part ces émotions pour éviter de s'est chargé énormément et puis n'est pas trouvé des repères.
Ça, c'était le besoin des élèves. Vous avez cité les collaborateurs. Est-ce que votre rôle auprès des collaborateurs, ça a été ponctuel du fait de ce drame de Grand Montana, ou c'est aussi un lien que vous avez régulièrement avec les enseignants des gymnases où vous intervenez?
Alors le lien, il est là régulièrement, et le fait qu'on puisse passer dans la salle de maître comme ça tous les jours, ça nous donne la possibilité de créer le lien, de sentir le climat, de comment vont les collaborateurs quand le besoin est si élevé.
Je voudrais juste ajouter une chose par rapport à Anna. Comme on est formé en fait au rituel, on a des compétences à ce niveau-là pour proposer en fait dans le cadre du gymnase des cérémonies de souvenirs, des rites de passage, des débuts de deuil à faire. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement attendue de la part des directions de gymnase écoles professionnelles.
C'était Guy Labarac, l'aumônier protestant du gymnase de la Cité, qu'on entendait à votre micro, Samuel Soquet. Merci beaucoup pour ce reportage. Et vous, qu'est-ce que vous pensez des activités des aumôniers, des aumônières des gymnases? Est-ce que vous pensez que leur rôle est désuet ou au contraire qu'ils ont une fonction à jouer auprès des élèves? On attend vos commentaires, vos réactions au 058 134 20 20.